Camille Alary, Les fleurs amoureuses. Chapitre 1. À cette époque, les fées, qui maintenant ne sont plus évoquées que pour distraire les cerveaux enfantins, vivaient encore. Lors de la fondation de leur royaume en Provence, elles s'étaient établies non loin d'Arles, dans une grotte naturelle, ouverte au bas des larges flancs du mont Majour. Les toucheurs de bœufs, qui vont souvent, les jours de Mistral, reprendre haleine dans les ruines qui avoisinent cette caverne, lui ont conservé son nom quelque peu fantastique de Trou des Fées. Follement enlacées par les bras d'un lierre énorme, des ronces aux dards aigus, des arbustes sauvages, des broussailles vivaces, masquées, mieux qu'une tenture de velours, le seuil de la demeure enchantée. Mêlées à des orties, venues au hasard dans les fentes du roc, de rares fleurs de lavande qui se courbaient sous les brises attiédies montant de la plaine, un entassement de pierres mangées de mousse sur lesquelles, aux approches du crépuscule, les mésanges et les bergeronnettes reposaient leurs ailes fatiguées, voilà tout ce que l'œil scrutateur du passant pouvait voir. Mais derrière ce rempart de verdure, plus loin que cet inextricable fouillis de plantes échevelées, un couloir à parois de granit rouge que terminait un escalier dont les marches de cristal reflétaient les corps divins de toutes ces vierges infécondes conduisait au palais des fées. Là, le jade, l'onyx, le porphyre s'alliaient au bois de senteur, alors aux pierres précieuses pour former des voussures bizarres, des acrotères découpés à jour, des minarets, admirables de sveltesse, rappelant les merveilles d'architecture des temples de Delhi consacrés à Vishnu. Les dépendances du palais s'élevaient autour d'une cour circulaire plantée de palmiers aux feuilles en éventail. Un bassin sur lequel évoluait une escadre de cygnes en occupait le centre. Une double rangée d'arcades l'encadrait. Au-dessus de la dernière galerie, des tentes d'étoffes soyeuses interceptaient la lumière trop vive du dehors. Et tandis que, muets et soumis, des négrillons crépus, aux chevilles cerclées de corail, couraient, portant des plats de fruits, sur le marbre gris des dalles, les oiseaux des tropiques voletaient dans la cage grillagée d'argent où ils étaient prisonniers. Les cascades laissaient égoutter de la verveine dans le gazon de leurs vasques, les palombes se becquetaient sur les trèfles des chapiteaux, et près d'eux, accroupis comme des sphinx sous quelques lauriers roses monstrueux, ou vautrés devant leurs abreuvoirs vides, des lions domestiqués, très graves, léchaient leurs pattes, gardant encore au fond de leurs prunelles rousses l'éblouissante vision des couchers de soleil sanglants derrière la tendre verdure des oasis perdues. C'est là que, folâtres et rieuses, étendues sur des peaux de fauve, les fées vivaient les chaudes heures du jour. Elles ne devaient sortir du palais que vers le milieu de la nuit. Chapitre 2. Une de ces fées exerçait un véritable ascendant sur toutes ses compagnes. Elle l'aimait et la respectait, plutôt comme une sœur que comme une reine, car jamais, vis-à-vis d'elle, elle n'usait des mesures rigoureuses que seule, de par son rang suprême, elle avait le droit d'appliquer. Maya était son nom. Maya avait l'âge indéfini des créatures fabuleuses, dans les veines desquelles une goutte du sang des dieux païens coula jadis. Ses yeux, clairs comme le ciel, souriaient sans cesse. Ses cheveux, d'un blond cendré, tordus plus haut que sa nuque, ou flottant, dénoués, sur sa robe de satin blanc, lui faisaient tantôt un casque de guerrière, tantôt un manteau d'impératrice. Tout en elle parlait au sens. Le charme pénétrant qui s'exhalait de sa personne était tel qu'Abdul Ben Saïba, le grand vizir, eût donné esclaves et joyaux pour la posséder, et qu'un poète eût passé sa vie entière à baiser ses pieds nus. Or, certains soirs de juin, Maya quitta le palais sans son escorte ordinaire de dame d'atour et, pensive, s'en alla rêver du côté du Rhône. Un vague besoin de solitude la dominait. Elle connaissait, sous les tamaris, un berceau de feuilles où le mystère l'avait toujours précédée. C'est vers cet asile plein de fraîcheur qu'elle se dirigeait. Elle marcha longtemps. La nuit descendait, les lointains se fondaient dans le noir crayeux des ténèbres, le cri des grillons résonnait strident, répété comme une plainte. Les étoiles, rares d'abord, rayonnaient plus nombreuses. Là-bas, à l'extrême limite de l'horizon, au-dessus de la masse sombre des bois, la lune, fière de sa beauté sans tache, montait dans le ciel et sur le gravier des berges, les lames du fleuve envoyaient leur écume avec un long sanglot. La reine des fées avançait à petits pas. La traîne de sa robe passait sur les touffes d'herbe sans les courber. Devant elle, à perte de vue, les lucioles, clairsemées le long des ravins, éclairaient sa route, et du calice de chaque fleur, comme d'autant d'encensoirs balancés, montaient des parfums. Elle allait atteindre la berge quand, tout à coup, le bêlement craintif d'un agneau égaré réclamant sa mère lui fit détourner la tête. Elle s'arrêta, prêtant l'oreille. Presque sous ses yeux, gardé par un dogue à mufle de phoque, un troupeau de béliers et de boucs pâturait au clair de lune. Plus loin, couché derrière une haie, enveloppé dans sa cape, les bras noués sous sa tête, superbe sous sa bure en lambeaux, un homme dormait comme autrefois Endymion dans les plaines désertes de la Carie. C'était le pâtre Gallus. Le molosse sommeillait. La fée n'avait point l'apparence humaine. Pour mieux contempler le dormeur, elle put donc faire encore quelques pas vers lui. Elle se courba, curieuse. Le pâtre était beau comme un jeune dieu. Les boucles frisottantes de ses longs cheveux noirs, secouées par l'haleine des nuits, s'éparpillaient sur ses joues brunies. Une barbe d'éphèbe ombrageait son visage ovale. Il dormait en souriant, et ses lèvres, rouges, bien arquées, semblaient vouloir confier au vent le nom de l'enfant naïve pour laquelle son cœur, jusque-là invulnérable, avait battu. La reine, pétrifiée d'admiration, demeurait debout. Des sensations inconnues s'éveillaient en elle. Pour la première fois, depuis qu'elle se connaissait, le feu des désirs la consumait. Chapitre 3. Frissonnante d'anxiété, Maïa se baissa, puis, hésitante, embrassa Gallus sur la bouche. À ce contact brûlant, le pâtre entr'ouvrit ses paupières et se dressa. La fée avait disparu. Le vent du large chantait dans les branches. Au loin, la cloche fêlée d'un monastère sonnait la prière. Pendant que son chien fidèle léchait ses mains, Gallus sonda du regard l'épaisseur des ténèbres. Surpris de se trouver seul, il mit sur le compte d'un cauchemar menteur le baiser de flamme qu'il avait reçu et se rendormit en suivant des yeux une colombe effarouchée qui s'envolait, à grands coups d'aile, dans la direction du trou des fées. La charmeuse revint la nuit d'après, mais cette fois, elle ne se changea plus en colombe. Elle retrouva le bel adolescent à la même place et, de sa voix d'or, lui dit simplement son amour et ses espérances. Dès qu'il eut entendu, le pâtre vaincu partagea sa passion. Alors la fée, plus violemment éprise, voulut la voir auprès d'elle. Un escalier dérobé, taillé par des géants dans la roche vive, montait, de l'extrémité du couloir, vers la partie du palais réservée à la reine. C'est par ce passage secret, inconnu de tous, excepté d'elle, que Gallus fut introduit. Suivant Maïa, dont la main amollie pressait sa main, il traversa une grande serre, le pavillon des bains, le salon du trône tout constellé de pierreries, puis cette immense salle de style mauresque qui aboutissait à la chambre royale. Devant eux, une porte d'ébène, ferrée de clous d'airain, s'ouvrit sans bruit. La chambre, capitonnée de soie rose, avait le ciel étoilé pour plafond. Une clarté douce l'emplissait continuellement. Aux angles, quatre cassolettes brûlaient des parfums d'Asie. Des glaces s'enfonçaient en perspective, renvoyant mille fois la même image. Le lendemain, lorsqu'au moment de se séparer de sa maîtresse, Gallus dut regagner le passage secret, l'ivresse du triomphe éclatait dans ses yeux et, rougissante, affaissée sur son épaule, Maïa, qui lui indiquait le chemin, n'osait plus lever ses yeux vers lui. Toutes les nuits, les amants se réunissaient. Toutes les nuits s'envolaient, écourtées par les ravissements et les extases. Gallus, agenouillé dans l'herbe, admirait sa jeune maîtresse qui, câline, prenant la tête du pâtre en ses petites mains grasses, la couvrait d'ardentes caresses, puis, confondu dans une béatitude mutuelle, le cœur débordant de tendresse, tous deux restaient en présence sans parler. D'autres fois, afin de distraire son amant, que, jalouse, elle dérobait à la curiosité de ses sujettes, la reine s'enfermait avec lui dans ses appartements, dont les panthères gardaient les portes, et pendant des journées entières, les fêtes, où se voyaient des danseuses égyptiennes aux épaules luisantes, Des bayadères lascives agaçant des boas visqueux se succédaient, pleines de magnificence et d'imprévus. Chapitre 4. Ils vécurent ainsi pendant des années, sans que jamais l'horloge du vieux temps sonnât pour eux l'heure de la satiété. Le jour vint, cependant, où Gallus, mordu par l'orgueil, eut honte de sa misère. L'amour, si désintéressé et si pur de Maïa, ne lui suffisait plus. Les haillons qui le couvraient le faisaient sourire de pitié. Il enviait le sort de ces princes des beaux, dont, à l'époque de sa jeunesse errante, il avait rencontré les cortèges défilants, bannières déployées sous un flot de poussière. Profondément humilié de n'être qu'un humble parmi les plus humbles, le pâtre, pleurant de rage, s'oubliait jusqu'à maudire sa destinée. Maïa, à qui les pensées les plus secrètes ne pouvaient échapper, surprit ses larmes amères et en devina sans peine la cause. Aussitôt, elle résolut de les tarir. Un matin, pendant qu'il sommeillait, le pâtre fut dépouillé de ses haillons. À son réveil, sans savoir comment, il se vit beauté, éperonné, la plume au front, l'épée à la ceinture, rêvant aventures et combats. La fée ne le laissa pas revenir de sa stupéfaction. Du bout du doigt, elle lui montra l'antique château que sa baguette venait de faire sortir de terre, à l'endroit même où ils avaient échangé leurs aveux. C'était un manoir féodal, comme il en existait sur les hautes cimes, moitié forteresse, moitié palais, avec pont-levis, tours crénelées, remparts et mâchicoulis. 40 villages tributaires en dépendaient. Maïa lui en fit les honneurs. Le cornet de l'albalétrier qui veillait retentit par deux fois. Le pont-levis gémit sous ses chaînes, la herse fut dressée. Sitôt que Gallus franchit la poterne, des clameurs d'allégresse s'élevèrent parmi les éclats des trompettes. Rangés sur trois files, au fond de la cour, les vassaux attendaient leur nouveau suzerain. Les hallebardiers, les piqueurs et les pages formaient la haie. Au milieu d'eux, un bouffon vert et jaune secouait ses grelots en chantonnant une grotesque ballade. Au bas du perron, tout de blanc vêtu, une fillette s'agenouilla, portant sur un coussin de velours bleu les clés de la grande porte. La fée les prit. Gallus visita successivement les caves voûtées encombrées de coffres remplis d'or, l'arsenal au mur duquel brillaient des panoplies d'armes meurtrières, les écuries où des étalons nés au désert piaffaient d'impatience, le chenil, logis d'une meute sans rival au monde. Quand ils reparurent sur le perron, les fanfares retentirent de nouveau. Maïa, profitant du bruit, se rapprocha du pâtre et lui dit à voix basse « Tes vœux sont comblés, tu avais les honneurs, tu as la fortune, tu auras la puissance. Te voilà l'égal d'un fils de roi. Sois-moi fidèle et je ne regretterai pas ma peine. » Pour remercier sa bienfaitrice, Gallus, suffoquant de joie, bégaya quelques paroles tellement confuses qu'elle ne parvint pas à en saisir le sens. Chapitre 5. À partir de ce jour, le caractère de Gallus subit une métamorphose complète. Lui que Maïa avait connu docile, compatissant, devint égoïste, querelleur et brutal. Pour un ordre mal exécuté, pour un oubli involontaire, il renversait les meubles, brisait les cristaux, prenait des colères telles que sa valetaille en tremblait. Il s'enivrait, passait presque tout son temps dans les bois, car la chasse était son plaisir de prédilection. Monté sur son alezan brûlé, armé de son arbalète, un trousseau de javelots à l'arçon de sa selle, entouré de sa meute affamée des entrailles pantelantes de ses victimes, il s'enfonçait dans la profondeur des forêts touffues, jouant tantôt de la hache, tantôt de l'épée, abattant les aigles, acculant les cerfs, décimant les renards, massacrant les loups. Ces tueries, l'adresse dont il était obligé de faire preuve pour défendre sa vie, lui procurait des jouissances nouvelles. À force de vivre avec les bêtes, de se familiariser avec leurs instincts, il s'imprégna de leur sauvagerie. Petit à petit, sa nature devint grossière comme avant. Il perdit la notion du juste et de l'injuste. Sa réputation d'homme froidement cruel grandit si vite que, lorsqu'ils entendaient prononcer son nom, les pauvres gens des campagnes, fous d'épouvante, allaient se cacher dans leurs étables. Comme pour justifier ce sinistre renom, il eut l'audace d'enlever, le jour même de ses noces, la fille cadette d'un manant du voisinage. Le ménétrier auquel elle était fiancée sortit de la foule et le souffleta. Le lendemain, on le trouva pendu à la croix d'un calvaire. Galus, qui, regagnant son repère, passait au galop de son cheval, lui trancha la tête d'un revers de sa terrible épée. Quant à Maïa, c'est à peine s'il y songeait. De temps à autre, pourtant, après avoir fait sceller sa jument, il a prié de l'accompagner à travers les bois. La fée, qui n'ignorait rien, acceptait avec une joie apparente. Elle se résignait, espérant toujours amener à elle cette âme qu'elle était prête à conquérir au prix de tous les sacrifices. Une nuit, en revenant d'une de ses chevauchées, Galus, pensant dérouter les soupçons de sa maîtresse, voulut lui tresser une couronne. Ce fut dans ce but qu'il mit pied à terre au bord du Rhône, près d'une source à moitié desséchée, dont le creux était tapissé de violettes. Lorsque les dernières fleurs cueillies, il se remit debout, il glissa et roula dans le fleuve. Aux appels de son bien-aimé, Maïa accourut. Elle se jeta hardiment à l'eau, croyant pouvoir le sauver. Mais son amour pour un mortel l'avait fait déchoir de sa puissance. La reine n'était plus qu'une femme, trop faible pour entrer en lutte avec les éléments coalisés contre elle. Le courant, très rapide, entraîna la fée et le pâtre. Plus ils se débattaient, plus ils s'éloignaient de la rive. Leurs cris déchirants terrifiaient les oiseaux. Ils s'enfonçaient doucement, livides, les yeux démesurément ouverts. Tout à coup, une vague furieuse passa sur ses corps enlacés, quatre mains désespérément tendues émergèrent des eaux boueuses, quelques bulles d'air crevèrent à leur surface, et le fleuve, grondant dans la nuit, reprit sa course vers les ponts. Chapitre 6. Depuis, un peu au-dessous d'Arles, en face du groupe d'îles verdoyantes de la Camargue, on voit, dans le Rhône, deux fleurs blanches flottant sur les eaux. Unies par de longues racines séparées et fixées au fond du fleuve, elles s'épanouissent au soleil, mollement soulevées par les vagues. Quand la saison des amours vient pour elles, la plus petite déroule sa tige, trempe ses bras d'herbe et nage jusqu'à ce que ses pétales se confondent avec la corolle de sa compagne. Alors, assouvie par cette rapide étreinte, par ce suprême baiser dans lequel elle fait passer toute sa vie, elle se détache et meurt. Les mariniers de Trinquetaille, de qui je tiens cette légende, assurent que la petite fleur blanche n'est autre que Maïa. Tous les ans, à peu près à la même époque, la reine amoureuse vient ainsi embrasser Galus, le pâtre infidèle pour lequel elle est morte, et que, malgré tout, elle n'a jamais cessé d'adorer.